انترفيو اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا سعد سفير فرنسا بتونس اندري بارون. بونجور.
Bonjour Wassim Ben Darlaby et bonjour également à tous vos auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation ce matin au lendemain du premier tour des élections présidentielles en France. الانتخابات الدولة الأول في فرنسا. دونك سي زيليكسيون، بون جو ماتان با ان كومونتير سبيسيالمون امباسادور دو فرانس ان تونيزي. جوستومون زيت امباسادور دو فرانس ان تونيزي اي نون دان كانديدا او اوتر. مي on pourrait éventuellement parler de ces élections en Tunisie, comment se sont déroulées, parce que les Français en Tunisie votent. Donc si vous pouvez nous donner un peu une idée sur les résultats ici, comment ça a été organisé.
Alors effectivement, je ne ferai pas de commentaires sur les élections, la manière, enfin, les résultats des élections en France. En revanche, je peux tout à fait vous dire comment les choses se sont passées ici. Nous avons à peu près 17 000 électeurs inscrits, français, inscrits sur la liste électorale en Tunisie. Et ces électeurs étaient invités à voter dans 13 bureaux de vote répartis dans 8 villes de Tunisie. À peu près 7 000, donc sur 17 000 inscrits, ont participé au scrutin, ce qui fait un taux de participation d'environ 40%, ce qui est un peu moins qu'en 2017. Mais c'est un taux tout à fait conforme aux résultats des élections présidentielles en Tunisie par le passé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Deux candidats qui se détachent très nettement dans le résultat. Président Macron, enfin, le candidat Macron et le candidat Mélenchon qui totalisent à eux deux environ 80% des voix. Bon, mm-hmm. Je ne vais pas vous donner plus de détails à ce stade puisque les résultats sont encore en cours de vérification. Mais voilà en gros les grandes tendances. Donc 17 000 inscrits, 7 000 votants, un taux de participation qui tourne autour de 40%. Mm-hmm. Et deux candidats qui se détachent très nettement, candidat Macron en premier et le candidat Mélenchon.
إذن يقول 17,000 فرنسي مقيد للانتخابات التونسية، معناتها للتصويت في تونس 7,000 منهم صوتوا، تقريبا 40%، يعني أقل شوية من الانتخابات اللي فاتوا، ولكن تقريبا في معدل معناتها نسب التصويت التوني في تونس. يقول بالأساس بالنسبة للنتائج مازال معناتها النتائج النهائية لم يتم الإعلان عليها، ولكن زوز مرشحين نقاوم في المراتب الأولى مع بعضهم الزوز تقريبا يمثلوا 80% من التصويت، والأول معناتها أكبر عدد أصوات، ما عطاناش العدد، ولكن هو المرشح إيمانويل ماكرون ثم جان لوك ميلانشون. دونك الزوز مع بعضهم 80%. وحاب يضيف حاجة؟
Donc, si vous permettez, je voudrais juste rajouter un mot à ce sujet. D'abord pour remercier les équipes du consulat, de l'ambassade qui ont permis l'organisation et la tenue dans de bonnes conditions de ces scrutins, et remercier également les autorités tunisiennes qui ont apporté leur concours à ce que pour permettre que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Donc Habib Shkour Betbia al-Zumaleo fil consulat li sahlou ala tandim l'intikhabat hadiya wa soulatat tunisia li sahlou hadiya. Voilà, ça c'est pour les élections et ce premier tour en Tunisie, du moins les résultats en Tunisie. Alors parlons, restons dans l'international, restons ce qui se passe ailleurs, au-delà de ces élections. Il y a une thématique qui s'est invitée pour ces élections, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle fait parler toute la planète. Alors aujourd'hui, cette guerre, elle a des conséquences sur le monde, elle a des conséquences, ça résonne jusqu'en Tunisie. Habit Narkima ala Mando al-Harb fi Ukraine, wa tada'iyatha bsifa 'ama 'al-'alam wa 'ala Tunis. Donc quel est cet impact selon vous, surtout sur un pays comme la Tunisie, et comment des pays comme la France pourraient éventuellement appuyer, soutenir la Tunisie? Et là, ça me permettra d'aller sur le sujet économique en douceur.
D'abord, l'impact il sera global. Je crois que c'est une crise dont les conséquences vont être mondiales et qui va affecter l'économie mondiale. Ceci étant, il est clair qu'elle comporte des risques accrus pour des pays plus vulnérables comme par exemple la Tunisie. Alors comment elle va affecter la Tunisie, je peux pas, je suis pas en mesure de rentrer dans des détails dont je ne dispose pas par ailleurs, mais on voit bien que ça risque de poser des problèmes en termes d'approvisionnement, en certains produits, notamment en céréales, que ça risque de poser des problèmes aussi du fait de l'augmentation des prix d'un certain nombre de produits, produits de base, mais aussi produits énergétiques, et tout ça risque de peser également lourdement sur des finances publiques déjà très dégradées, puisque la plupart de ces produits sont subventionnés. Donc ça aura un impact certainement très 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 important pour tout le monde, mais en particulier pour des pays comme la Tunisie. Par conséquent, on est en train au niveau multilatéral, je dirais, de réfléchir à des solutions qui permettent de pallier ces conséquences, notamment pour les pays qui risquent de pâtir le plus de ces conséquences. Sur le plan alimentaire en particulier, la France a déjà débloqué des fonds pour aider les pays qui pourraient se trouver en situation où la sécurité alimentaire pourrait être menacée. Je sais qu'au niveau européen également, un fonds de 200 millions d'euros, je crois, a été mis en place. Le commissaire Varelli, qui était là il y a quelques jours, a d'ailleurs indiqué que la Tunisie bénéficierait sur cette enveloppe globale de 200 millions, qui pourra d'ailleurs peut-être éventuellement être augmentée plus tard. Donc la Tunisie pourrait bénéficier d'environ 20 millions d'euros dans un premier temps. Et puis, comme vous le savez, le président Emmanuel Macron a pris l'initiative a proposé de lancer au niveau du G7 en particulier une initiative qu'on appelle FARM et qui vise justement à travers un certain nombre de mesures d'accroissement de la production de produits céréaliers, de constitution de stocks pour venir en aide aux pays les plus menacés par le risque par la sécurité alimentaire, et aussi à travers des mécanismes de régulation des marchés, à essayer autant que faire se peut de prévenir les conséquences de la crise alimentaire pour les pays qui risquent d'être le plus affectés. Donc, mais bon, cette initiative FARM est en cours d'élaboration. Je ne peux pas trop élaborer, peux pas trop développer aujourd'hui. Mais c'est une l'agression russe contre l'Ukraine a clairement des conséquences très 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 lourdes. Bon, pour les Ukrainiens d'abord, évidemment, en priorité, les populations ukrainiennes, mais aussi sur le plan économique, et donc ce sont des conséquences qui affectent tout le monde, mais qui affectent en particulier les économies des pays les plus vulnérables. Et il y a une, je pense, une prise de conscience de la part de la France en particulier, mais je pense aussi au niveau européen, du fait que nous devons, comme nous l'avions fait dans le cadre de la lutte contre la Covid, où nous avions mis un certain nombre en place un certain nombre d'initiatives pour aider les pays à faire face à cette pandémie, à travers notamment mécanismes COVAX, distribution de vaccins. On se trouve face à une crise de nature tout à fait différente, mais d'ampleur comparable. Et là aussi, il faut trouver des solutions multilatérales pour aider les pays qui risquent d'être le plus directement touchés à faire face aux conséquences de cette crise.
يقول انه معناتها مش نرجع على الكل، ولكن بالاساس سالته معناتها على تداعيات الحرب. يقول بون بيان ايفيدامون مانيش باش ندخل وندقق معناتها في تداعيات الحرب على تونس، ولكن اليوم تونس من الدول اللي ممكن يحتاجوا وقفه معناتها صارمه. قال هذاك علاش الاتحاد الاوروبي، وذكر الكوميسار الاوروبي اللي كان في زياره لتونس، قال معناتها فما المبلغ تاع 200 مليون اورو، قال ينجم يكبر هذا، ولكن جزء منه 20 مليون اورو على الاقل تنجم تكون مخصصه لتونس لمواجهه هذا المشكل معناتها التزود المواد الاساسيه. وقال معناتها بتبيع فرنسا زاده باش تكون الى جانب تونس، وتكلم عن سياتي فارم. قال ما نجمش ندقق ندخل في تفاصيل لانه ما زالت في بدايتها، ولكن المبادره هذه معناتها في طريقها، وان شاء الله قال نحكي عليها ممكن في وقت لاحق. حبيت نربط انا قبل ما نرجع على الوضع والتقرير تاع التريزور الفرنسي اللي مازال كي يصدر ويحكي على تداعيات الحرب هذه، حبيت نحكي على تداعيات الحرب على المستوى العالمي، اللي هو قال مع امباكت على العالم كله خاصة على فرنسا. دونك شوي جوست افون دو ريفينير على تونيزي اي سيت امباكت كو كورا سيت كريز دايور اون لو فوا دون لو رابور دو تريزور فرانسي كي ابوردي سيت كيستيون دو لا كريز اوكرانيان اي سون امباكت سور لي اسبي بيرمون بودجيتير. en Tunisie. Alors, il y a un impact également sur des pays comme la France aujourd'hui. La France se trouve dépendante de ce gaz russe, etc. Donc, est-ce qu'on voit l'avenir différemment? Est-ce que ceci ne fera qu'accélérer cette transition énergétique? Je parle d'accélérer parce qu'elle est déjà bien entamée dans des pays comme la France. On n'en est pas encore là, mais espérons que ça s'accélère et que ça démarre bien également chez nous. Mais voilà, il y a cet enjeu énergétique également.
Alors d'abord, en ce qui concerne la France, nous sommes moins dépendants des approvisionnements en gaz en provenance de Russie que d'autres pays européens. Nous importons néanmoins une partie de nos besoins en gaz de Russie. Donc oui, c'est aussi un problème pour nous. Et puis, même si n'achetons pas de gaz en Russie, nous l'achetons ailleurs, et le prix du gaz risque d'augmenter, donc ça aura également nécessairement des conséquences pour des pays comme la France, bien entendu. Oui.
Et en ce qui concerne les sanctions, justement, est-ce que aujourd'hui, quand on suit ce qui se passe, les commentaires, etc., on dit que ces sanctions, en fin de compte, n'ont pas peut-être l'impact, moi je ne peux pas évaluer l'impact recherché, ces pays, mais en tout cas, on dirait que l'impact attendu par les pays qui imposent ces sanctions, la France en fait partie, l'impact n'est pas là.
Bah, écoutez, d'abord, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Moi, je lis des choses un peu contradictoires sur le sujet, mais j'ai tendance à penser que ces sanctions produisent des effets sur l'économie russe. Et je vois que d'ailleurs elles sont renforcées, elles ont vocation éventuellement à l'être. Si jamais les effets n'étaient pas suffisants, probablement faudra-t-il encore les accroître. Et je vois qu'il y a régulièrement des réunions qui se tiennent, notamment au niveau européen, pour durcir ces sanctions. On n'a pas le choix. Je veux dire, l'agression russe, tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, l'attaque délibérée frontale contre un pays voisin, l'occupation de son territoire, les bombardements, les agressions contre la population civile, les massacres que l'on découvre tous les jours en Ukraine, sont, je veux dire, ne nous laissent pas d'autre choix que d'adopter des positions extrêmement, extrêmement, extrêmement fermes. Pour essayer de mettre un terme le plus rapidement possible à cette agression. Donc, je sais pas, j'ai pas de je n'ai pas d'études exhaustives sur l'impact réel des sanctions. Je lis des choses un peu contradictoires sur le sujet. Évidemment, la tendance naturelle des autorités russes est de dire qu'elles n'ont pas d'impact pour décourager. Je pense que la propagande russe a intérêt à faire croire que ces sanctions n'ont pas d'impact. Nous pensons qu'elles en ont un, et quoi qu'il en soit, encore une fois, l'agression russe, l'attitude de la Russie, des forces russes présentes en Ukraine, les attaques contre les populations civiles, les massacres, tout cela ne nous laisse pas d'autre choix que de mettre en œuvre des sanctions extrêmement rigoureuses et de plus en plus rigoureuses si nécessaire vis-à-vis de la Russie.
يقول معناتها بخلاف ال معناتها يقول الحرب نتاع روسيا على اوكرانيا وتداعياتها واللي قاعد صاير في اوكرانيا والهجمات اللي قاعده صايره ويتكلم يستعمل حتى كلمه مساك معناتها اللي قاعد صاير معناتها في اوكرانيا يقول لك ما يخلينا الا معناتها نتشبثوا ونسلطوا عقوبات معناتها قويه على روسيا وكان لازم حتى نمشيوا ونشدوا فيها ومازال بكري معناتها باش نحكيوا ممكن على التداعيات العقوبات هذه لحد الان ولا كان قال بالنسبة لنا معناتها عندها تداعيات سلبية على روسيا قال لك بطبيعة عادي وأنه نشوفه روسيا تسوق إلى أفكار أخرى وتقول أنه هذا مش قاعد يقلق فيها ولكن يقول احنا نفكروا اللي نخموا اللي قلقها وهكا ولا هكا ما زلنا نجموا نصعبوا في العقوبات هذه ولا. نرجع هنا للشأن التونسي دو روتور سور سيت Donc l'impact de cette guerre sur la Tunisie, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc un rapport du Trésor français qui parle justement de cette guerre cette guerre en Ukraine et de son impact sur la Tunisie. Alors, on parle de besoin de financement. On parle de 12,7 milliards de dinars. Donc, le rapport de la Direction générale du Trésor, qui relève du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Relance, parle du recours massif aux emprunts extérieurs prévus en 2022 à hauteur de 12,7 milliards de dinars pour couvrir près des deux tiers des besoins de financement annuels. Ça, on le savait déjà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport dit ça rend impératif la conclusion d'un programme avec le FMI. La crise russo-ukrainienne devrait également, selon le Trésor français, exacerber des besoins de financement au-delà des 20 milliards de dinars. Donc on parle de 12,7 milliards, on parle de besoins d'emprunt extérieur, parce que les besoins d'emprunt sont à peu près à 20 milliards justement, donc 12,7 d'emprunt extérieur, et qui pourrait aller jusqu'à 20 milliards avec l'impact de la crise russo-ukrainienne, selon le Trésor français. Aujourd'hui, quel soutien, déjà, si vous voulez commenter ce rapport, et puis l'appui de la France, qui est assez influente auprès du FMI, parce que s'il y a une conclusion à retenir de ce rapport, c'est que ça va forcément passer par un accord avec le FMI.
Non, mais d'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille donner à ce rapport, comme vous dites, plus d'importance qu'il en a. Mmh. La Direction générale du Trésor à Paris, qui suit un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des relations plus étroites, fait régulièrement des notes de synthèse sur la situation macroéconomique et financière de ces pays. Et je pense qu'il s'agit simplement d'une de ces notes ordinaires de synthèse que fait régulièrement la Direction.
Et dont la conclusion est importante, ils disent qu'un accord avec le FMI est impératif.
Mais je pense que c'est une conclusion que beaucoup de personnes partagent en tout cas. Alors, bon, il y a besoin de financement de la Tunisie, il était déjà évalué, je crois, à 20 milliards de dinars dans la loi de finances initiale pour 2022, adopté à la fin de l'année dernière. Cette estimation était fondée sur des éléments qui sont aujourd'hui en partie dépassés, notamment sur la base d'un prix du baril de pétrole à 75 dollars. Bon, on est aujourd'hui largement au-dessus. Le prix d'un certain nombre de produits de base va également est en train de fortement augmenter. Donc il est vraisemblable, moi je ne suis pas expert dans ces matières-là, mais que, à la suite de la crise ukrainienne, le besoin de financement qui avait été identifié dans la loi de finances initiale pour 2022 va encore augmenter. Or, comme on le sait, la Tunisie aujourd'hui ne peut pas, compte tenu notamment de la dégradation de sa note souveraine, emprunter sur les marchés financiers, a de plus en plus de difficultés à emprunter à l'extérieur. Donc ses sources de financement extérieur se sont taries. Et la seule façon de restaurer la confiance vis-à-vis des bailleurs et partenaires extérieurs, c'est en effet de conclure un accord avec le FMI qui garantisse qu'un certain nombre de réformes qui auraient peut-être dû être mises en œuvre auparavant et qui ne l'ont pas été, seront cette fois-ci mises en œuvre pour permettre... Moi j'insiste toujours sur ce point, c'est pas pour le FMI ou pour les bailleurs de fonds que la Tunisie doit entreprendre des réformes. C'est d'abord pour elle-même. Les réformes, c'est toujours difficile, mais on les fait pour soi, on les fait pas pour les autres. C'est pour lui permettre de restaurer l'équilibre de ses finances publiques, pour lui permettre de dépendre moins à l'avenir de l'aide extérieure, et pour permettre à la Tunisie et aux Tunisiens de recréer les bases d'une croissance saine et durable, qui permette de créer de l'emploi et de redistribuer du revenu, des hausses de salaire à la population. C'est la logique. Donc effectivement, aujourd'hui, je crois que les données macroéconomiques et financières font qu'il est indispensable d'en passer par un programme avec le FMI. Bon, comme vous le savez, discussion était déjà largement entamée. On doit rentrer maintenant bientôt dans une phase de négociation. Je comprends que les choses avancent relativement bien. Beaucoup de travail a été fait par le gouvernement tunisien, pour l'élaboration d'un plan de réforme. Ce plan a ensuite été discuté avec le FMI et complété, je pense, précisé, complété avec le FMI. Donc les choses avancent. Ce qu'il faut maintenant, c'est le plus rapidement possible ouvrir formellement des négociations et aller vers la conclusion d'un accord. Je pense que c'est ce que la mission tunisienne qui doit se rendre à Washington dans les prochains jours cherchera à obtenir. Nous, en tant que partenaire très proche de la Tunisie, nous et d'autres d'ailleurs,
et influents au FMI,
nous avons toujours dit que nous étions là pour aider la Tunisie à la fois. D'un point de vue, enfin, pour fournir l'expertise technique dans l'élaboration de son plan de réforme, et puis aussi pour l'aider dans ses discussions avec le FMI, et puis enfin pour, une fois qu'un accord sera conclu, j'espère le plus rapidement possible, accompagner par un soutien, y compris financier, la mise en œuvre des réformes qui seront convenues dans le cadre de cet accord. L'urgence, c'est de signer cet accord avec le FMI. Le gouvernement s'y emploie et j'espère que ça pourrait être fait dans les meilleurs délais possibles.
قد يقول معناتها قد سألته بتبيع على التقرير هذا نتاع التريزور فرونسي اللي يتكلم على 12.7 مليار دينار معناتها احتياجات تونس من التمويل الخارجي من القروض الخارجية اللي نجم يوصل 20 مليار تداعيات الحرب. يقول معناتها ما نعطيوش التقرير أهمية أكثر من معناتها دينات عادي معناتها يقوموا بهم بصفة متواصلة، ولكن هوني الاستنتاج أنه تونس لازم تتوصل اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويقول هنا معناتها تونس يظهر لي في طريق صحيح للتوصل للاتفاق هذا اللي الفريق الحكومي قاعد يخدم عليه في المفاوضات وبش يمشيوا في الأيام القادمة لواشنطن. بتبع نعرفوا لقاءات الربيع صندوق النقد الدولي وين معناتها إن شاء الله ما تقول فرنسا معناتها كعضو نافذ معناتها في صندوق النقد الدولي تنجم تدعم معناتها بتبيع الملف التونسي، ويقولك خاصة بعد لو كان فما الاتفاق ولازم يكون فما اتفاق، يقول فرنسا تنجم تدعم تونس حتى بالتمويل معناتها الإصلاحات. يقول نذكروا الإصلاحات هذه تونس مش تعمل فيهم صندوق النقد الدولي حتى فيهم الروحة، وان توكا المفروض تونس تعملهم الروحة. فوالا حاول نترجم الملخص. نختم بسؤال ان ريست 30 سكوند اون كيستيون. لا فرانس ابل لانسومبل دي فورس بوليتيك ان تونيزي ا مورسي ان ديالوج انكلوزيف، اي جو دي سا اي جو كونكلو افيك سيت كيستيون باسكو سي لي او اف ام اي. لو اف ام اي دي
oui.
il nous faut justement un consensus autour de ce programme. Est-ce que c'est dans ce sens que la France a émis ce conseil? On va dire c'est
pas la France et la France et d'autres, si vous voulez. Nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se passe en
tous les pays n'ont pas eu les mêmes
Globalement tous les pays partenaires amis appellent à l'ouverture d'un dialogue aussi inclusif que possible pour
c'est-à-dire un dialogue inclusif, ça doit inclure.
Écoutez, nous, il nous semble que face à l'ampleur des défis auxquels la Tunisie fait face aujourd'hui, défis de toute nature, il est préférable et à la nécessité de mettre en œuvre des réformes aussi bien économiques qu'institutionnelles. Il semble que le mieux, c'est de créer les conditions d'une association aussi large que possible de l'ensemble des forces politiques, sociales, syndicales, sociales, à la réflexion sur ces réformes, sur leur contenu. Voilà, c'est toujours une des conditions de la mise en œuvre des réformes, c'est toujours leur appropriation par les forces, l'ensemble des forces vives d'un pays et par la population. Donc il nous semble que la meilleure méthode pour permettre à ces réformes d'aboutir, de donner des résultats concrets, c'est d'associer le plus grand nombre possible de personnes à leur élaboration. Et puis ça veut dire le plus inclusif possible. C'est pas à nous de définir le format, c'est juste qu'il nous semble que, encore une fois, plus la concertation est large, plus le dialogue associe un grand nombre de personnes, de forces politiques, je répète, sociales, syndicales, et plus ça donne de chances de parvenir à un minimum de, pas parler de consensus, mais d'entente ou d'accord sur ce qu'il faut faire. C'est ça la question qui se pose finalement. Où en est-on Quelles sont les réformes à mettre en œuvre? Quelles réformes, selon quelles modalités, selon quel calendrier? Il me semble que ce sont des choses qui méritent de faire l'objet d'une concertation. Ça engage l'avenir du pays à moyen et long terme. Certaines de ces réformes seront difficiles, voire douloureuses à mettre en œuvre. Et donc, il nous semble que plus l'élaboration de ces réformes fera l'objet d'une concertation large, et plus ces réformes auront des chances d'être mises en œuvre et utiles et efficaces.
شكرا لك سعاد سفير فرنسا بتونس اندري بارون على حضورك معنا اليوم تبعنا سي دافا اكسبتي نوتر انفيتاسيون. بالنسبه للنقطه الاخرى معناتها حكينا بالطبيعه على فرنسا اللي تطلب معناتها من تونس او تتكلم على تطلب من القوى السياسيه في تونس وانه يكونوا في حوار اليوم شامل اكثر ما يمكن يقولوا هذا معناتها عادي لانه فما اصلاحات فما قرارات مهمه مصيريه بالنسبه لتونس قد ما باش تكون فما توافق عليها قد ما هذا يكون في مصلحه من الشعب يقول ومن القوى مختلف قوى يقول معناتها نقابيه وغيره وحساب سياسي الى اخره فوالا دونك هذه هي الفكره. شكرا لك سعاد السفير ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون سو ماتان.
Merci Wassim Ben Larbi, bonne journée à toutes les auditrices et auditeurs d'Express FM.
Merci beaucoup. Tout de suite, Nemchiou, ma Anis El Wahebi, fi Klemethab.